l'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ce radio-journal. Au sommaire, en territoire de Walungu, les affrontements entre les Ouazalènes et les troupes de la F-123 perturbent gravement les activités scolaires, des écoles fermées, des déplacements massifs, des élèves et enseignants des Kaziba à Kamanyola. L'enquêtite grandit à l'approche des épreuves prévues de 8 juin, à en croire le calendrier scolaire réaménagé. On en parle dans cette édition du journal. Au sommaire également, les conditions des voyages vers le Burundi se durcissent pour les voyageurs venant du Rwanda ou des zones sous contrôle de la F-123 dans la partie est de la RDC. Désormais, deux documents de voyage sont exigés. Alors que les trajets via la Tanzanie coûtent plus cher et prend plus de temps, la traversée par la plaine de la Ruzizi reste risquée sur le plan sécuritaire. Dossier complet à suivre dans ce radio-journal. La technique est assurée par Alain Zar. Au microphone pour la présentation, je suis Omer Moudekereza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent au détail. Débutons cette édition du journal par cette information. 13 maisons sont parties en fumée dans un incendie qui s'est produit la nuit du mardi à ce mercredi 21 mai 2025 dans le village de Bouzi en groupement de Moudoussa, en territoire des Kabarés. Selon la société civile du groupement de Moudoussa, cet incendie a été signalé vers 2h25. La mauvaise installation électrique serait à la base de cet incendie, explique notre source. Le président de la société civile du groupement de Moudoussa, François Moubalam, a lancé un appel à l'aide aux familles victimes de cet incendie. Il en appelle aussi à la prudence en cette période d'avant le début de la saison sèche. François Moubalama.
La source de cet incendie, c'est la mauvaise installation du courant électrique. Pour rappel, il n'y a pas aussi et moi que notre incendie s'est produit dans le même groupement, mais dans les sous-villages de Kabungo, où 9 maisons étaient parties en fumée. Tout en compatissant avec les victimes de cet incendie, nous, Société Civile Force Vive du groupement de Moudoussa, nous lançons un SOS aux hommes de bonne volonté de venir en aide aux victimes de cet incendie. Et nous demandons à la population d'être vigilante parce que nous approchons déjà la saison sèche.
C'était là François Moubalama, président de la société civile de Moudoussa. Et comme annonçons au sommaire de ces radio-journal, les activités sont toujours paralysées dans plusieurs écoles en territoire de Walungu. Ceci est la conséquence des affrontements qui opposent de manière sporadique les combattants Ouazalendo aux éléments de la F-123 depuis février dernier. Détail, Hélène Boudjiriri.
Sur l'axe Kaziba, dans la sous-division éducationnelle Walungu 3 par exemple, notre correspondant sur place explique que plusieurs responsables d'école ont lancé des communiqués dans des églises le dimanche dernier, appelant les parents à envoyer leurs enfants à l'école dès le lundi 19 mai 2025. Malgré cet appel, ajoute notre source, seuls quelques élèves se sont présentés dans leurs écoles avant d'être renvoyés chez eux suite au manque d'enseignants dont la plupart ont également fui les affrontements. Plusieurs parents disent craindre d'envoyer leurs enfants à l'école, estimant que la situation sécuritaire n'était pas encore rassurante. D'autres, par contre, disent craindre pour la sécurité de leurs enfants, vu que certaines écoles sont situées à proximité des campements militaires. L'absence des élèves dans des écoles à Kaziba se justifie également par le fait que plusieurs familles ont fui les affrontements, se dirigeant certaines à Bukavu et d'autres encore à Luinja, Bourigny, Ngueche et dans la plaine de la Ruzizi. À Kamanyola, seules quelques écoles primaires fonctionnent pendant que d'autres n'ont toujours pas ouvert leurs portes. Sur place à Kamanyola, l'entité est fantôme. Les activités sont littéralement paralysées car une bonne partie de la population est toujours en déplacement, en majorité au Burundi voisin. Sur l'axe Walungu Centre, des sources sur place indiquent que les activités scolaires se déroulent normalement. L'Institut Maka, une école officielle de grande renommée, a dû déménager car situé à un endroit proche de là où se trouvent régulièrement les combat entre les combattants Wazalendo et les éléments de l'AFC M23. Certains élèves suivent les cours dans des salles de classe à l'école primaire 1 Walungu, d'autres à l'Institut 27 Octobre et les restes au lycée Mulezi Wabana. Dans d'autres groupements comme Mulamba, Burale, Nduba, Kanyola et Nzibira, les cours se déroulent dans une bonne partie des écoles, mais les plaintes des enseignants persistent au sujet des retards dans les paiements de leurs salaires, mais également l'amélioration de leurs conditions de vie. Entre-temps, des doutes persistent sur la manière dont les élèves finalistes vont passer des épreuves certificatives alors qu'ils n'ont pas étudié la totalité des cours tels que définis dans les programmes.
Merci à vous Hélène Boudjiri. C'est en principe pour les deux jours prochains, soit dans environ 2 semaines, que débutent les épreuves hors session de l'examen d'état sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Sur le sentier au calendrier scolaire réaménagé, publié par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et nouvelle citoyenneté, la session ordinaire de ces épreuves, quant à elle, intervient du lundi 28 au 31 juillet 2025. Selon ces calendriers, les épreuves hors session débutent les deux jours pour se clôturer les 14 jours de l'année en cours. Cependant, les date des épreuves certificatives au cycle court et au cycle long ont été modifiées. L'ENAFEP est fixée au mardi 1er, au mercredi 2 juillet 2025, alors que l'ETENASOSP devra avoir lieu du jeudi 17 au vendredi 18 juillet 2025. Au niveau primaire, secondaire et technique, l'année scolaire va se clôturer en principe le 5 août 2025 selon ce calendrier réaménagé. Pour rappel, le début de l'année scolaire 2024-2025 n'a pas été rose pour les établissements publics à travers la République. Fixée au 2 septembre 2024, la rentrée est intervenue plusieurs semaines après suite aux multiples revendications des enseignants, dont l'amélioration du contenu de leur enveloppe mensuelle, conformément aux divers accords signés avec le gouvernement. Mesdames et messieurs, en cours des diffusions, c'est l'édition du journal sur Radio Maïndelo émettant en direct de la ville de Bukavu.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la radio Maïndeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Et parlant santé, dans cette édition du journal, disons que les cas de choléra continuent d'être enregistrés dans la province du Sud-Kivu et la courbe est toujours ascendante. En province, la zone de santé de Katana vient en tête, particulièrement dans le carré minier de Lomera, en territoire de Kabaré. Jusqu'à la fin de la semaine dernière, la province a enregistré 367 cas contre 326 enregistrés la semaine précédente. Explication Hélène Boudjiriri.
En tête, la zone de santé de Katana est passée de 124 à 162 cas, suivie de celle d'Ovira qui est passée de 32 à 47 cas, celle de Mitimuresa qui est passée de 26 à 25 cas et celle de Rosezi, 27 à 44 cas la semaine. C'est ce qu'indique Justin Bengueria, spécialiste en santé publique et chef de bureau en charge de l'information sanitaire, de la recherche et la communication à la division provinciale de la santé au Sud-Kivu dans un entretien avec Radio Maïndé. Justin Bengueria explique la montée des cas dans les sites de Lomera par le fait que les conditions de vie demeurent difficiles avec une promiscuité sans précédent, mais aussi la mentalité de la population qui semble habituée à consommer n'importe quelle eau. C'est seulement dans la zone de santé d'Ibanda qu'une réduction des cas de choléra est remarquée. Ici, le nombre est passé de 46 à 30 cas. Se réjouit le chef des bureaux en charge de l'information sanitaire, de la recherche et la communication à la division provinciale de la santé au Sud-Kivu. Justin Bengueria indique que les efforts se poursuivent pour inverser la tendance et appelle la population à adopter des attitudes positives pour mieux lutter contre cette épidémie.
Il n'y a que dans la zone de santé d'Ibanda, ici en ville de Bukavu, où on trouve une régression des cas, mais il y a toujours quelques cas autochtones. Et donc là aussi, nous encourageons la population de la ville de Bukavu de consommer l'eau traitée. On sait qu'actuellement on n'a pas vraiment une pénurie d'eau en ville, et éviter de consommer les aliments qui ne sont pas cuits et les aliments qui ne sont pas suffisamment lavés si ce sont des aliments crus. Du côté du centre, à Mubumbano comme à Walungu, je pense que la situation est sous contrôle. À Walungu, il n'y a aucun cas aujourd'hui, et à Mubumbano, il y a eu seulement 3 cas. Et donc, avec la sensibilisation et la coupure de la chaîne de transmission entre l'axe centre et l'axe nord, je pense que là, au moins, on est en train de contrôler ces situations de ce côté-là.
Justin Benguerra recommande le renforcement des mesures d'hygiène et l'appui des leaders religieux et communautaires dans la sensibilisation de la population. Parmi les efforts fournis figurent, entre autres, les formations, la mise en place d'une équipe pour réaliser la décontamination des ménages et l'installation des toilettes hygiéniques avec l'appui des différents partenaires, indique un prestataire des soins dans cette partie du Sud Kivu.
Et dans un autre chapitre, les conditions de voyage deviennent de plus en plus difficiles pour les personnes qui voyagent vers Bujumbura au Burundi, en passant par le Rwanda et la Tanzanie au même titre que pour ceux qui voudraient passer la plaine de la Ruzizi. Expédie Kialou pour les détails.
Pour ce qui est du trajet passant par le Rwanda puis la Tanzanie, aucun voyageur n'est actuellement autorisé à rentrer sur le sol burundais avec un document portant le sceau des services migratoires du Rwanda ou encore des zones contrôlées par l'AFC M23 en République démocratique du Congo. Il en est de même des documents émis par les autorités des régions précitées. Déjà à la frontière entre la Tanzanie et le Burundi, précisément au niveau de Kabango, toute personne détenant de tels documents est refoulée par les services migratoires du Burundi, indique un voyageur qui venait d'assister à un tel événement. Pour espérer fouler le sol du Burundi pour les voyageurs en provenance de Bukavu ou des zones sous contrôle de l'AFC-M23, il faut détenir au moins deux documents des voyages différents. En clair, il faut désormais détenir un passeport et en tenant lieu de passeport ou alors un passeport et un document CPGL en cours de validité, explique des voyageurs contactés par la rédaction de votre radio. Le premier document devra donc servir à traverser pour le Rwanda et la Tanzanie. Une fois à la frontière entre la Tanzanie et le Burundi, le voyageur devra alors présenter l'autre document ne contenant pas des sceaux du Rwanda ou des zones contrôlées par l'AFC-M23 en RDC pour avoir le droit d'entrer au pays d'Evariste Ndayishimiye. Pour ce qui est des finances, le montant à préparer sur ce trajet varie désormais entre 60 et 70 dollars, alors qu'avant ce montant variait entre seulement 15 et 20 dollars américains sur le trajet en passant par la plaine de la Ruzizi. En plus, il faut au moins un jour et demi pour arriver à Bujumbura. Ce trajet oblige le voyageur à passer la nuit dans un hôtel à Rusumo, une ville tanzanienne proche de Kigali au Rwanda, avant de poursuivre son périple pour le Burundi, explique un responsable d'une agence de transport. Pour ce qui est de l'itinéraire passant par la plaine de la Ruzizi, la traversée est carrément périlleuse sur le plan sécuritaire. Les témoignages concordants parlent des barrières érigées à plusieurs endroits et auxquelles les passagers à moto doivent payer des frais selon l'humeur de ceux qui les entretiennent. En plus d'un contrôle rigoureux, il est possible qu'un voyageur soit même victime d'enlèvement sur cet axe, explique une source dans la plaine. Plusieurs d'entre eux préfèrent traverser de manière clandestine en passant par la rivière Ruzizi ou alors trouver des mécanismes pour se retrouver à Uvira afin de traverser par la frontière de Gatumba.
Et dans le reste de l'actualité, le parc national des Kahuzi-Biega et ses environs subissent actuellement une exploitation à grande échelle de ses ressources. Il s'agit de la coupe illicite des bois, dans sa partie comprise entre Kabar et jusqu'à Kalehe, ainsi que le trafic des ressources minérales. C'est ce qu'indique plusieurs messages d'alerte parvenus à la rédaction des radios Maïndéléo depuis près d'un mois et corroborés par les témoignages de certains chefs locaux et autres notables des milieux concernés. Alain Kabika.
Il ressort de ces alertes qu'à partir du groupement des Miti, en passant par celui des Bugore et Irambikatana jusque dans les territoires des Kalehe, ce sont des centaines d'habitants qui ont trouvé une aubaine dans l'exploitation des ressources du PNKB depuis que ce site du patrimoine mondial a été dégarni des équipes de garde. Des sources rapportent que des hommes porteurs d'armes font la loi, s'arrogeant les droits de propriété des grands espaces au sein du PNKB. Il suffit de leur donner une certaine somme d'argent pour avoir les droits de couper autant d'arbres quel que soit leur type. Ces arbres sont ensuite transformés en planches ou encore en braises en plein parc. Des sources indiquent que les activités sont florissantes, au point que l'afflux des personnes qui s'y adonnent à cœur joie ne fait que croître. L'on rapporte la présence des marchés créés exclusivement pour la cause, pour faciliter le trafic. Ici, des véhicules de tout type chargent à longueur des journées, les uns des planches ou des sticks d'arbres, et d'autres encore de la braise. Ces véhicules sont visibles à longueur des journées, faisant des mouvements sur Bukavu ou d'autres destinations. Il en est de même des barges et embarcations motorisées qui font les pleins sur les lacs Kivu pour différentes destinations. Dans un message la semaine dernière, le chef de groupement des Miti en territoire de Kabare, Chirimwa Mikugomba Mambe, a interpellé les habitants de sa juridiction sur les dangers que présentent ce genre de pratiques pour la survie de la province. Malgré cela, le défenseur des droits humains note que les parcs tendent de manière irréversible vers sa disparition si rien n'est fait dans l'urgence. Il rapporte des hectares de terres appartenant au PNKB détruites depuis plus de 3 mois maintenant. En plus des arbres coupés au profit de la braise et des planches, d'autres défenseurs des droits humains parlent des hommes armés qui entretiennent une exploitation illicite des ressources minérales, au même titre que les trafics des espèces rares que regorge ce patrimoine mondial de l'humanité. Des défenseurs des droits de l'environnement et des droits humains appellent à une action urgente, rappelant que la période des guerres ne devrait pas être une occasion de destruction de cet écosystème, comme si l'autorité de l'État était en berne.
Pendant ces temps, les habitants du Sud-Kivu doivent éviter l'usage des pesticides chimiques lorsqu'ils veulent chasser les insectes dans leurs champs. Ces pesticides sont nuisibles aux abeilles, pourtant ces dernières sont nécessaires à la survie de l'humanité. À la place des pesticides, les habitants doivent plutôt promouvoir des alternatives agroécologiques. Ce message est de l'organisation Monde Abeille, en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'abeille le 20 mai. Au cours d'un point de presse organisé à Bukavu, le président de cette structure a fait savoir que plusieurs facteurs sont à la base de la disparition des abeilles au Sud-Kivu. C'est notamment le feu de brousse, la déforestation et le trafic des abeilles. Pour le président de l'organisation Monde d'abeilles, Dieu merci Mahano, l'apiculture se présente comme source de revenus alternatives précieuses pour les communautés locales. Il parle de miel, de la cire et propolis qui non seulement sont utiles à la nutrition et à la médecine. À cet effet, une série de formations agro apicole vient d'être lancé au Sud-Kivu pour sensibiliser l'importance de protéger les abeilles. Dieu merci, Mano en parle dans cet élément.
Je nous invite tous à partir d'aujourd'hui à nous engager collectivement autour des actions suivantes. Décourager la déforestation et le déboisement. Planter les arbres des espèces mellifères locales dans nos champs, dans nos haies, dans nos jardins, autour de nos écoles pour garantir une alimentation constante pour les abeilles. Encourager la transhumance apicole qui permet aux apiculteurs d'associer l'apiculture à l'agriculture suivant les rythmes de floraison tout en favorisant l'amélioration de la productivité agricole et apicole. Introduire dans nos écoles une éducation environnementale en vue de sensibiliser dès le plus jeune âge nos enfants sur l'importance des abeilles et des arbres.
Cette journée a été célébrée sous le thème « Butinons les idées de la nature, notre mère nourricière ». Et avant de mettre fin à cette édition du journal, disons que l'organisation française Leader pour la paix vient de décerner les prix Smart Peace Prize édition 2024-2025 à Amani Mataba Rotom, fils du Sud-Kivu et initiateur du projet Congo Peace School. Le comité de sélection pour l'édition 2024-2025 dit avoir porté son choix sur Amani Mataba Rotom pour l'initiative Congo Peace School, fondée en 2017 par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Ce prix est une initiative qui prime chaque année un programme pédagogique ou un individu qui s'est distingué par des efforts dans la construction de la paix à travers la sensibilisation des jeunes à la culture de la paix, à la non-violence dès le bas âge. Signalons que le prix Smart Peace Prize offre une reconnaissance et une visibilité importante aux lauréats, ce qui peut soutenir leurs efforts continus en matière d'éducation à la paix sous plusieurs formes. L'activité s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères, de la France et de l'Europe, au Quai d'Orsay, en présence de plusieurs autorités françaises, des représentants des corps diplomatiques et d'autres hautes personnalités. Et c'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle d'Alain Zard, au microphone pour la présentation. C'était un bémol Omer Moutekereza. Au revoir.